Eh bien, bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Oui.
J'ai regardé hier soir les informations jusqu'à 1h30 au sujet de ce qui s'est passé à Nice et la communauté du sanctuary est vraiment unanime. Nous prions pour tous ces gens qui ont perdu un être cher et nous sommes vraiment outrés, scandalisés. Et nous prions pour que notre gouvernement français agisse de façon sévère. Et que, vraiment, nous savons aussi que ces choses doivent se produire. Ça fait longtemps, je disais justement à un ami aujourd'hui que ça fait plus de 30 ans que je dis attention islam. Et je voyais qu'il y avait des dérapages qui pouvaient. Et on disait, oui, t'es raciste. Ben, c'était pas le cas, je suis toujours pas raciste. Mais c'est quand même quelque chose de dangereux. Il faut lire le Coran, il faut lire les livres, la biographie autorisée de leur prophète pour se rendre compte que c'est pas une religion vraiment de paix. Les musulmans modérés ne connaissent pas vraiment le Coran, je pense pas, c'est pas possible. Ou alors ils trichent, enfin je comprends pas, c'est effrayant, ça fait vraiment peur, il faut... Mais ça doit arriver, nous savons que ça doit arriver. Alors ma prière c'est que Dieu soit compatissant et que, voilà, qu'il protège les siens, et puis que ceux qui doivent se repentir, se repentent, parce que mourir dans de telles conditions, sans être prêt, ça va être... C'est quand même terrible, c'est terrible. Pour dire autre chose à ce sujet, je regardais sur le net, pas un mot de l'église protestante de France à ce sujet. Je regardais sur le net, pas un mot des églises évangéliques sur le net à ce sujet. Pas un mot des églises assemblées de Dieu à ce sujet. À cette heure-ci, hein, c'est aujourd'hui, on est le 15 juillet. Par contre, l'église des saints, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que les gens appellent les Mormons, tout de suite ils ont mis un article. Voilà. Eh bien, je préfère leur christianisme aux autres. Un christianisme de cœur. Voilà. Une fois de plus. J'avais un ami tout à l'heure qui me disait faut pas juger, Dieu jugera. Je dis mais moi aussi je dois juger. Il faut qu'on ait l'œil ouvert. On peut pas. Par exemple, ce qui nous est arrivé aussi à la communauté, il y a des gens qui n'ont pas voulu juger. Ils ont dit oh non, on ne veut pas prendre parti. Ben où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas avec eux non plus, parce qu'ils se sont rendus compte, mais un peu tard, qu'ils auraient mieux fait de juger et de dire non, c'est inadmissible. Et ben maintenant, ils sont. Voilà. Ça part dans tous les sens. Bon, ben voilà. Mon Dieu. Ce soir, j'avais préparé mon message hier, et il est vraiment tout à fait d'actualité. Je l'ai préparé hier après-midi pour aujourd'hui. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc, chapitre 11, versets 34 à 36. Voilà ce qui est dit. J'espère que le son est bon, parce que c'est un nouvel appareil que nous venons d'acheter, et j'espère qu'il est bon. On verra. Voilà le verset. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. Veille donc à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbre. Si donc ton corps tout entier est éclairé, sans aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lueur. Amen. Jésus, je te prie de bénir ta parole, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous fasse du bien et qu'elle nous permette d'être des gens qui ont un bon regard sur toute chose. Amen. Alors, je vous avais déjà parlé au sujet de ce texte et je vais le reprendre ce soir parce qu'il y a un détail, je sais que ce mot-là n'est pas très bien vu en France, le mot détail depuis quelques années, mais bon, il existe. Un détail dans ce que nous venons de lire et qui échappe à beaucoup. Jésus ne parle pas de nos yeux, mais de notre œil, au singulier. Il parlait de notre œil intérieur. Notre œil intérieur est indépendant de notre corps physique. Par contre, tout notre être est dépendant de notre œil intérieur. Et il n'y a personne d'autre que nous-mêmes qui peut avoir accès à cet œil. Quand je dis personne, bien sûr Dieu, mais on ne va pas demander à Dieu de faire ce que nous devons faire. C'est à nous de débarrasser cet œil des couches opaques qui viennent l'obscurcir. Si notre œil intérieur est propre, tous les courants lumineux du monde divin, du royaume de Dieu, pénétreront jusque dans les profondeurs de votre être, de votre corps, de votre être. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de lumière. Un disciple de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, est capable de distiller une matière impondérable. J'ai fait exprès de prendre ce mot parce qu'il a plusieurs significations. Premièrement, c'est-à-dire qu'il est, c'est une matière dont l'importance peut difficilement être évaluée. Ensuite, c'est une matière qui est imprévisible, qui influe sur la tournure des événements. Un disciple de Jésus-Christ, il n'est pas comme le commun des mortels. Il diffuse une lumière impondérable, une lumière que les gens du monde ne peuvent pas prévoir. Impondérable, ça veut dire aussi cela, qu'on ne peut pas prévoir. Ni même l'adversaire, Satan, ne peut pas prévoir. C'est pourquoi je dis que c'est une lumière impondérable. Un disciple de Jésus-Christ, qui a son œil intérieur propre, sait d'où il vient et où il va, et à part Dieu et les autres disciples de Jésus-Christ, personne ne sait ni où il va, ni rien du tout. Ça, c'est ce qu'on trouve dans Jean 3, 8. Et on trouve ça aussi dans l'histoire d'Élie, quand il est avec Élisée, et puis les fils de prophètes disent « Mais est-ce que tu sais que ton maître va être enlevé ?»« Oui, 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 je sais. » Les autres, ceux qui avaient l'esprit de prophétie, savaient. Ils regardaient avec le même œil. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Quand un prophète parle, les autres jugent, pas n'importe quels autres. Ceux qui ont le don de prophétie jugent la prophétie. Vous voyez? C'est comme ça. Les autres ne savent pas. Il y a de l'ordre dans les choses de Dieu. Il y a de l'ordre dans les choses de Dieu. Et un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, il sait où va un autre disciple. Moi, je sais où vous allez, je sais d'où vous venez, je sais où vous allez. Et vous savez la même chose sur moi. Mais qui, à part nous, et à part Dieu, sait qui nous sommes réellement? Personne. En tout cas, Jésus le dit, et on le voit tous les jours. Vous êtes des témoins de Jésus-Christ sur la terre. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit de promesse, vous avez un immense avantage sur l'adversaire et sur les adversaires charnels qui sont là dans ce monde. Vous êtes des témoins de Jésus-Christ, c'est-à-dire en quelque sorte, vous êtes un de ses représentants. Une autre responsabilité aussi. Vous êtes un membre actif du corps de Christ, un être qui fait ce que le Maître faisait. Il a dit tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans ces choses-là. Un disciple rempli du Saint-Esprit, c'est un être qui a capté la lumière de Dieu, qui l'a condensée en lui-même. C'est cela que ça signifie, Christ en vous. Christ, ça veut dire roi. C'est bien plus que le fait de parler en langue. Le parler en langue, c'est utile pour s'édifier soi-même avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. Mais ça sert à s'édifier soi-même. Ça sert à rien dans l'Église, à moins qu'il y ait une interprétation. Mais tous ces gens qui parlent en langue et qui font jamais rien de ce que Dieu dit, ça sert à quoi qu'ils parlent? Ils sont édifiés pour faire quoi? Pour faire leur business, pour faire quoi? Pourquoi? On est édifié pour être des témoins. Jésus a dit, vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Le fait de parler en langue, c'est pas une fin en soi. Les gens qui sont là, maintenant, j'ai entendu des jeunes qui disent, on s'éclate dans le Seigneur. J'imagine l'apôtre Paul qui s'éclate dans le Seigneur. Vous savez, Dieu se choisit des hommes, des femmes, des enfants qui ont à la base un terrain favorable, une capacité de travailler intérieurement. Dans le monde spirituel, c'est comme dans le monde matériel. Vous avez des gens plus ou moins doués. Voilà. Et puis vous avez des gens plus ou moins flemmards. Il n'y a pas de mystère. Et puis les gens doués en général sont flemmards. Une personne qui manifeste la lumière est une personne qui est appelée par Dieu, qui est formée par Dieu, qui est qualifiée par Dieu, qui est envoyée par Dieu et qui a travaillé dans le secret de sa chambre, qui a travaillé lui-même dans le secret de sa chambre, dans la solitude, en seule présence de Dieu, pour que la lumière qui est en lui émane, en quelque sorte, que ça soit le résultat d'un processus, que sa vie soit le résultat d'un processus du travail intérieur qu'il a fait dans le secret de sa chambre. S'il n'y a pas cette vie avec Dieu, s'il n'y a pas cette vie intime avec Dieu, mais c'est quoi? C'est rien du tout. C'est du christianisme à deux balles, c'est aller poser son derrière dans une église et puis prendre la Sainte Cène. Moi, je me rappelle, alors il disait, oh, aujourd'hui, je vais prendre mon culte. Comme je travaillais à l'époque avec des drogués, eux, ils prenaient leur dose. Les chrétiens, ils prenaient leur culte, hein, le pain et le vin, et puis les drogués, ils prenaient leur dose. Chacun sa cam, quoi. Mais c'est horrible. Prendre son culte. Pour eux, c'était prendre la Sainte Cène. Voilà, c'était le sommet du masque, n'est-ce pas, de la vie chrétienne. Mon Dieu. Il y a des fausses spiritualités. Il y a des fausses spiritualités qui utilisent des symboles aussi, de façon abusive et erronée. Vous avez tous vu le triangle avec l'œil dedans, hein? Eh bien, les gens pensent qu'il représente l'œil de Dieu, qui voit tout, et rien n'est plus faux. En vérité, c'est l'œil dont parle Jésus dans Luc 11, 34 qu'on vient de lire. Les maçonniques se sont appropriés ce symbole, mais si les chrétiens avaient été moins charnels, ben, ils se seraient appropriés avant eux. Mais ils n'ont pas compris. Cet œil unique, c'est l'œil de Dieu en nous-mêmes, c'est cet œil dont parle Jésus, l'œil, pas les yeux. Bien sûr que nous ne devons pas mettre n'importe quoi devant nos yeux, mais là il est question de l'œil, c'est autre chose, il y a une subtilité. Jésus dit pas ça par hasard. J'ai regardé dans Matthieu, c'est la même chose, c'est l'œil, c'est pas les yeux. Et puis Jérémie parle de cela aussi, il dit « L'Éternel, le maître de l'univers, est un juste juge qui examine les reins et les cœurs. » Et il, c'est-à-dire Jérémie, continue en disant « Je verrai la vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. » Jérémie 11, 20. Le prophète Jérémie, il était comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, si vous lisez l'histoire. Il ne savait pas du tout ce qui était en train de se tramer, de ce que ses adversaires, ses satans, tramaient. Il ne savait pas du tout ce qu'ils se racontaient entre les portes et les machins. Mais l'Éternel, lui, il savait et il lui a fait savoir, Jérémie 11, 18, parce que Dieu en lui, en Jérémie, voyait tout, sondait tout et jugeait tout. Moi, il ne faut pas juger. Si, il faut juger. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Mais tout le monde se croit spirituel, c'est ça le problème. Maintenant, quand tu crois spirituel, il faut le démontrer. Pas seulement par du baratin, mais aussi par des œuvres surnaturelles qui prouvent que ce que tu dis est vrai. Le triangle, savez, on voit ce triangle sur le dollar avec l'œil dedans, c'est les maçonniques qui ont pris ça. Mais ce triangle, en fait, dans ce symbole, c'est votre être dans les trois dimensions de la création dans lequel vit l'œil Dieu en vous dans les trois dimensions. C'est un symbole chrétien qui a été volé par cette secte des francs-maçons. C'est qu'un symbole, mais les chrétiens ne voient pas ce qu'il signifie et ils l'attribuent à la franc-maçonnerie ou à d'autres sociétés secrètes et ils voient du diable là-dedans, ils voient plus clair. Dommage. Bon, c'est qu'un symbole encore là, c'est pas trop grave. Le problème, c'est que leur œil ne voit plus clair pour beaucoup d'autres choses. Pour beaucoup d'autres choses. Un disciple de Jésus-Christ en qui réside la personne divine unique est capable de juger de tout par cet Esprit Saint qui sonde les reins et qui sonde les cœurs. Une telle personne avancera toujours sans risque de s'égarer. Sans aucun risque de s'égarer. Maintenant, ça dépend de nous. Il dépend de nous que cet œil soit ouvert ou pas. Alors, l'Ancien Testament regorge de cas d'hommes et de femmes qui ont bien commencé et qui ont mal fini. Dans le Nouveau Testament aussi, quand l'apôtre Paul dit « Mais vous aviez si bien commencé, comment se fait-il que vous en soyez là ?» Comme Osias, par exemple. Je prends juste le cas d'Osias. Osias, qui faisait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Hein, c'est 2 Chroniques 26-4. Osias faisait ce qui était droit devant l'Éternel. Mais ça lui montait à la tête, sa gentillesse, c'est tout ce qu'il faisait. Hein. Et puis il est devenu hautain, 2 Chroniques 26-16. Et il s'est permis d'offrir des parfums à l'Éternel, 2 Chroniques 26-18. Alors, j'entends d'ici certains qui diront, mais enfin quand même, il aimait Dieu, il lui a offert du parfum. Femme, comment ça se fait alors? C'est pas bien d'offrir du parfum à Dieu? Si on pense comme ça, c'est que notre œil intérieur est fermé. Pour la simple et bonne raison que déjà au départ, il y a une méconnaissance des Écritures. Beaucoup de gens ont leur œil fermé parce qu'il y a une méconnaissance des Écritures. J'entendais l'autre jour quelqu'un, j'ai pas entendu, on m'a rapporté, que quelqu'un, un de ces prophètes à la gomme, qui disait que chanter c'était juste pour conditionner les gens, pour les endormir un petit peu avant la prédication. Et alors Jésus faisait ça aussi, parce qu'il chantait avec ses disciples. David aussi, c'est écrit qu'il chantait, n'est-ce pas ? Méconnaissance des Écritures. Voilà, alors œil fermé. Si on se dit que Osias qui offrait des parfums à Dieu, c'était bien, comme la bonne femme qui a offert des parfums à Jésus, c'était bien. Pourquoi est-ce que quand c'est Osias, c'est pas bien? Parce que Osias n'avait pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Mais pourquoi il n'avait pas le droit? Parce que Dieu avait décidé. Point barre. Et on ne discute pas ce que Dieu décide. Si Dieu décide qu'un roi n'a pas le droit de rentrer dans le temple pour offrir des parfums à Dieu, et puis que le même Dieu décide que c'est bien qu'une prostituée vienne offrir du parfum à Dieu en chair, eh ben, si Dieu le décide, eh ben, il a le droit. Voilà, c'est tout. Puis on ne discute pas. Ce droit n'appartenait qu'aux prêtres consacrés et ordonnés. 2 Chroniques 26-18. Pour être ordonné, la moindre des choses, c'est d'être reconnu par l'Église. La moindre des choses. En général, c'est après de longues études, et puis voilà. Et après, c'est un collège ancien qui se réunit et tout. C'est pas rien. Alors, l'appel de Dieu doit être confirmé. Le pasteur regarde et dit, oui, il y a quelque chose de Dieu dans cette histoire, dans cet homme-là, ou de cette femme-là. Sinon, ils n'ordonnent pas. Hein. Moi, j'avais demandé à Osborne d'ordonner un frère de notre communauté. Il n'a même pas répondu à ma lettre. Mais j'étais un peu étonné quand même. Mince. Maintenant, je comprends. Le prêtre Azaria, il est allé lui dire au roi Osias, Il est pas, elle n'a pas osé aller tout seul, il est allé avec 80 autres prêtres qui étaient des hommes courageux, nous dit la Bible. Parce que quand même, le roi, vous savez, à cette époque-là, ça badinait pas, hein, les rois. Deux chroniques, 26, 17, 18. Eh bien, Ozias ne les a pas écoutés, et c'est écrit que la lèpre éclata sur son front, et il a été exclu de la maison de l'Éternel. Son œil était fermé. Il a cru qu'il pouvait faire quelque chose qui n'avait pas été ni appelé, ni formé, ni qualifié, ni envoyé pour le faire. C'est tout. En réalité, son œil s'était fermé. Il avait l'œil ouvert au début. Mais il se croyait spirituel, mais il ne l'était pas. Alors il s'est égaré malgré les avertissements de ceux qui avaient l'œil ouvert. Et la plupart des humains ne reçoivent la lumière qu'avec leurs yeux physiques. Jour, nuit, jour, nuit. Leur œil intérieur est fermé. Quelqu'un me parlait d'un de mes amis il y a quelque temps en arrière, il me disait, mais il n'est même pas né de nouveau. Si, il est né de nouveau, mais son œil n'est pas ouvert. Mais il est né de nouveau. Après, son œil s'ouvre quand même. Obstrué. L'œil est obstrué par des pensées, par des sentiments chaotiques. Et ça les empêche de recevoir la lumière d'en haut. Ça les empêche. Alors, il y a d'abord un travail qui doit être fait dans leur psychisme, dans leur âme. Un travail qui doit être fait. Alors, comment ? Ben, déjà, premièrement, il faut leur parler à ces gens-là. Leur parler. Eh bien, il faut leur expliquer, il faut les enseigner. Et puis s'ils écoutent, eh bien, petit à petit, il se peut que l'oreille intérieure s'ouvre. Il se peut, je dis bien, parce que c'est pas sûr. Ça vient encore de Dieu, si Dieu les veut ou si Dieu les veut pas, hein, parce que ça, c'est encore un mystère. Et ça veut dire que c'est après avoir compris avec leur âme qu'ils peuvent recevoir la révélation spirituelle. Mais comme leur œil est fermé, ben, ils pigent que dalle, rien du tout. Et ils pensent que c'est parce qu'ils sont plus spirituels que vous. Ils sont formidables. Formidables. Mais pour qu'ils arrivent à comprendre, c'est malheureux, mais il leur faut souvent un drame. Ben oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Vous savez, dans le domaine spirituel, c'est comme dans le domaine matériel. Il y a des anomalies. Vous allez dire, comment, Michel, des anomalies dans le monde spirituel ? Bien sûr. Si une personne ne possède pas les qualités morales ou n'est pas forte psychiquement, si elle franchit les frontières du monde invisible, ça peut devenir grave pour cette personne-là. Pas seulement pour cette personne-là, mais même pour son entourage. Ça peut devenir grave. Alors, mais Michel, comment c'est possible qu'une personne qui n'est pas forte psychiquement et qui n'a pas les bonnes qualités morales, comment c'est possible qu'il peut y avoir des anomalies dans le monde spirituel ? Mais Michel, qu'est-ce que tu nous dis ? Bah, souvenez-vous des Écritures. À la toute fin, mais à la toute fin des fins, des fins, des fins, des fins, au jour des noces de l'agneau, il y aura un homme qui aura réussi à entrer jusque dans la salle des noces alors qu'il n'était pas l'épouse, ni invité. N'est-ce pas écrit ? Bien sûr, c'est Jésus qui le dit. Matthieu, chapitre 22, 11. Il y en a qui arriveront à rentrer jusque-là. Ils seront finalement jetés dehors, au verset 13. Matthieu 22, 13. C'est étrange ? Non, c'est pas étrange. C'est étrange pour ceux qui ont l'œil fermé. Ceux qui ont l'œil ouvert, ils peuvent très très bien comprendre comment c'est possible que quelqu'un franchisse la frontière du monde spirituel. Les spirites franchissent avec l'aide d'un mort, avec l'aide d'un esprit mauvais, on peut franchir, n'est-ce pas, avec l'aide d'un esprit religieux. Eh oui, qu'est-ce pas? Franchir les frontières du monde invisible, c'est très dangereux pour une personne qui ne s'y est pas préparée. qui n'a pas été appelé, qui n'a pas été formé, qui n'a pas été qualifié, qui n'a pas été envoyé, ça peut devenir très dangereux. Ton œil peut ne plus être pur. Alors, tu ne vois plus par le regard de Dieu. C'est ça le truc. Tu ne vois plus par le regard de Dieu, mais tu ne vois plus que par la chair. Tu ne vois plus que par la connaissance intellectuelle que tu as de Dieu. C'est pour ça que dans les églises, on nous rabâche toujours l'histoire de Zachée, l'histoire de ceci, l'histoire de cela, pour tirer une leçon, pour pouvoir aider les gens. Mais attendez, c'est très bien, ça n'est pas mal de le faire. Je le fais aussi de temps en temps. Mais ce n'est pas un enseignement profond. C'est pas comme ça qu'on comprend ce que Dieu veut, le plan de Dieu pour notre vie personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez. Alors, ils connaissent, ils n'ont pas le regard de Dieu, ils ne voient pas les choses par le regard de Dieu, ils n'ont pas l'œil de Dieu ouvert en eux, mais ils ont la connaissance intellectuelle, quelque chose qui leur reste de ce qu'ils ont appris, par la doctrine, par les dogmes, ou par leur psychisme déséquilibré et possédé par un esprit religieux. Ça, c'est encore plus grave. Alors, encore une fois, c'est à nous-mêmes de veiller à ce que la lumière qui est en nous ne soit pas ténèbre. Vous avez des gens qui croient que la lumière qui est en eux est lumière alors qu'elle est ténèbre, mais ils ne voient tellement rien du tout qu'ils en sont absolument persuadés. Et vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ils ont raison. C'est effarant. C'est effarant. Quand vous voyez ça, vous trouvez devant une telle personne, c'est tellement contre nature que c'est effarant. Ton œil intérieur doit être entretenu par une qualité de pensée, par une qualité de vie que Dieu peut agréer. Ton œil intérieur doit être en bon état. Tu dois faire attention à lui. Celui d'Alexandre, le forgeron, ne l'était pas. Pourtant, il vivait en communauté. Oui, ça ne veut rien dire. Hein. Celui d'Ananias, n'était pas clair non plus son œil. Hein. Alors qu'il avait pourtant été baptisé et vivait en communauté. Sa bonne femme, Saphira, la même chose. Son œil n'était pas ouvert. Il était peut-être ouvert de 3 jours, puis s'est refermé. Hein. Celui de Simon non plus, bien qu'il ait été baptisé par Philippe, vous trouvez ça dans Actes 8, 13, 23. Simon n'était pas rempli du Saint-Esprit, l'apôtre lui dit, tu es rempli d'amertume et ton cœur est prisonnier du mal. Vous ferez remarquer au passage que je suis plus gentil que Luc, qui balance des noms, que Paul, qui balance des noms. Hein, Alexandre le Forgeron, Ananias, Saphira, Simon. Moi, je ne dis pas encore les noms. Je suis gentil encore. Jésus disait, heureux ceux qui ont le cœur pur. Personne n'a le cœur pur parce que tout le monde est dans le péché. Mais celui qui a un cœur pur, c'est celui que Dieu a purifié. Je parlais de cela ce matin avec un frère au téléphone. Et je lui dis, mais quand j'ai eu ce cancer, j'ai tout de suite dit, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je voyais que quand je disais ça devant certaines personnes, elles sursautaient, parce qu'elles ne connaissent pas les Écritures. Et j'étais obligé de leur expliquer, c'est pas que je sois juste, plus juste que vous, mais je le suis aux yeux de Dieu parce qu'il m'a justifié. Il a mis sur mon compte la justice de Jésus et il a mis sur Jésus le compte de mon injustice et de mon péché. Il a pris ma faute et il m'a donné sa justice. Et voilà pourquoi je suis juste. Et le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et il m'en a délivré. Dimanche, nous étions à Chartres avec Stéphane parce que je n'avais pas le droit de conduire à cause des produits qu'on allait m'injecter là-bas. Et j'ai rencontré la cancérologue qui me suit depuis le début de cette affaire et qui m'a dit, Monsieur Janton, c'est tellement extraordinaire votre cas parce que, voilà, normalement, on fait un TEP scan tous les 3 mois. Mais vous, il n'y a mais tellement plus rien du tout, je ne veux pas vous revoir avant un an. C'est magnifique, hein? C'est magnifique, gloire à Dieu, j'étais très content de ça. Et nos ennemis se sont réjouis de ce que j'avais un cancer. C'était la lèpre qui éclatait sur mon front. Hein? C'était moi le méchant Ozias. Hein? Vous voyez, vous ne voyez rien du tout. C'est terrible, c'est terrible. Et bien voilà, le Seigneur m'a vraiment guéri. Alors, c'est magnifique. Et ça, c'est pas parce que je suis plus juste que les autres, mais simplement parce que Dieu me voit juste. Alors, le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre
toujours.
Amen. Mais maintenant, une fois que on a été justifié, que notre œil est ouvert, il doit rester propre, c'est ça le truc. Il doit rester propre. L'autre jour, on roulait avec Stéphane, en voiture, puis ton pare-brise est vraiment black. Alors, il dit, oui, c'est vrai, il passe un coup de comment on appelle ça, de produit, et puis lave-glace avec les essuie-glaces. Je dis, je crois que ça vient aussi des essuie-glaces. Il faudrait les changer. Tiens, non, j'aime bien mes vieux essuie-glaces. Puis on a commencé à plaisanter là-dessus. Vous connaissez comment on est avec Stéphane. J'espère que tu les as changés maintenant. Non, il n'y a pas besoin, il ne pleut jamais ici. Mais voilà, c'est simplement parce qu'on était dans le nord, là-bas, dans le nord. Il pleut tout le temps. Ici, il ne pleut jamais. Mais enfin, il faudra quand même les changer parce qu'on ne sait jamais. Non, faut pas. Monsieur, c'est pas mal quand même. Donc voilà, il faut avoir tout ce qu'il faut pour avoir un œil propre, hein, notre œil propre. La véritable clairvoyance, l'œil véritable, se trouve dans le cœur et c'est l'amour qui ouvre l'œil. C'est l'amour qui ouvre l'œil. Lorsque vous aimez quelqu'un ou quelque chose, vous voyez dans la personne ou la chose que vous aimez ce que les autres ne voient pas. Alors moi, j'aime beaucoup Sylvie Vartan. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je l'aime, parce qu'ils la trouvent nunuche, nulle et compagnie. Il y en a même un qui s'amuse à m'humilier chaque fois qu'on est en compagnie de personnalités. Vous savez que Michel Jonton, il aime beaucoup Sylvie Vartan. Tout le monde dit « Ah bon ?» Puis tout le monde me prend pour l'idiote du village. Mais quand on aime, on voit des choses dans la personne qu'on aime que les autres ne voient pas. Vous savez bien ça. Eh bien, on voit des vertus, on voit des beautés, et ceux qui n'aiment pas vont trouver dans votre amour de l'exagération, du fanatisme, je ne sais pas quoi, comme l'autre, là, l'Alexandre Forgeron, là, qui, il ne faut pas dire son nom, qui disait que les frères et sœurs fidèles dans la communauté étaient des idolâtres et que c'était moi leur idole. Mais simplement, ils ne m'aiment pas, puis c'est tout. C'est tout. Son œil est fermé, il n'a pas... Voilà. Moi, je vous dis, franchement, je vous vois comme Dieu vous voit, comme Dieu vous a créé, il vous a créé, vous êtes comme vous êtes, parce qu'il vous a créé comme ça, et puis il vous a mis sur un chemin, il met des épreuves qui vous rendent meilleur, des moments, ça flanche un peu pour tout le monde, on a des difficultés tous, mais je vous vois aussi comment vous serez quand vous retournerez auprès du Père, et on est tous en train de travailler à ce perfectionnement, et c'est magnifique. Et c'est ce regard-là qu'on doit avoir les uns sur les autres, sinon c'est invivable. C'est invivable. Alors, il faut avoir, et j'ai un regard lucide, clair, et ce regard me permet d'avoir de la foi à votre sujet, et puis aussi à mon sujet, parce que sinon, Michel Jonton, hein. Un regard sur ce que vous allez être. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ce soir? Eh bien, pour dire que celui qui veut être clairvoyant doit d'abord apprendre à aimer. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, hein, voilà, tous les dons. Je vais vous montrer une voie par excellence, et c'est là qu'il nous sort le chapitre 13 d'un Corinthiens, c'est-à-dire l'amour, la voie par excellence. Si vous voulez vraiment être quelqu'un qui apporte quelque chose à l'Église, il doit y avoir cet amour, cet amour. Si votre œil est aveugle, alors criez comme l'aveugle au bord du chemin, et Jésus vous dira, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Comme s'il ne savait pas. Mais que je recouvre la vue, je veux voir, Seigneur, je veux voir. Et Jésus vous exaucera parce que vous aurez été humble. Parce que vous aurez été humble. Jésus n'exauce que ceux qui reconnaissent leur état, leurs besoins. Si tu crois voir, écoutez bien ça, si tu crois voir, tu es plus coupable par cela que par le fait d'être aveugle. C'est fou quand même. Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus. Il dit, « Si vous êtes aveugle, vous n'avez pas de péché, mais parce que vous dites « nous voyons », ainsi donc votre péché demeure. Jean 9, 41. Alors vous me dites, oui mais Michel, et toi alors tu penses que tu vois ? Je pense pas, je démontre. Je pense pas, je démontre. Démontrez-moi que vous êtes un vrai clairvoyant. Démontrez-le devant le monde, que les gens voient la différence entre vous et les gens du monde. Qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de lumineux dans votre vie. C'est ça qui est important. Qui rend gloire à Dieu, qui fait de vous un témoin. Je n'ai pas à penser ceci ou à penser cela, à m'auto-suggestionner, non. La foi, c'est la démonstration. La démonstration. Jésus est venu pour ces deux choses. Un, pour rendre la vue aux aveugles. Deux, pour rendre les aveugles, pour rendre aveugles ceux qui voient. Jean 9, 39. Ça vous paraît étrange ? Eh bien, c'est parce que vous n'y voyez pas clair. Le doux Jésus qui est venu pour rendre aveugles ceux qui voient, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est écrit dans votre Bible. Lisez votre Bible. Lisez-la et comprenez-la. Vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez pas votre œil ouvert. Allez donc sur vos genoux et cherchez la face de Dieu. Il posera sa main sur vous et dira que la lumière soit sans faire aucun reproche. Amen. Merci Amen. Jésus. De ce que tu nous encourages ce soir à aller devant toi et à chercher dans l'humilité toujours à ce que notre œil soit pur, soit propre. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin pour nettoyer cet œil et que nous puissions toujours voir clair et ne pas nous tromper en chemin, ni trébucher. Merci, Jésus. Merci parce que l'adversaire nous attaque, mais il est vaincu, et nous allons toujours plus loin, et cela rend encore témoignage davantage de ta gloire et de ta bonté envers nous. Merci Jésus, sois béni mon Dieu. Amen. 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 Dieu vous garde, et à dimanche. Alors j'espère que ça a bien enregistré, Stéphane, est-ce que ça a bien enregistré?